3. Église. Église. Le terrain est social. Qu'est un converti ? C'est un soldat du bien qui déclare la guerre contre son propre penchant au mal. La grande question est alors, comment engager le combat ? La nature mauvaise du converti ne va pas le laisser en repos, tout au contraire. Mais de quoi va-t-elle se nourrir ? Pour assaillir sans cesse sa volonté résolument bonne ? Elle va puiser dans les tentations qui naissent des relations des hommes entre eux, telles la richesse et le pouvoir. Le champ de bataille est donc social. Le seul moyen pour que l'idéal de sainteté remporte des victoires est donc dans l'association des convertis. L'union fait la force. Organisation duel. L'Église et l'État. L'objet social immédiat de la milice du bien diffère de celui de toute autre association. Le rôle de l'Église est défensif en tant qu'elle amortit en chacun les assauts du mal. Il est offensif en tant qu'elle attise en chacun l'attachement au bien. Le but final de l'Église est que son propre gouvernement, réduit aux seules lois de la vertu, devienne celui du genre humain tout entier, réuni en une seule société. Ceci dit, il ne faut pas rêver. En ce monde, l'ordre des convertis vivra dans une situation contradictoire. L'Église devra se faire reconnaître par le droit contraignant établi, dont, de plus, la portée est étroitement patriotique, alors qu'elle-même n'est liée que par la moralité libre, dont, de plus, l'horizon est proprement apatride. Si on y réfléchit bien, la condition de l'homme en ce monde oscille entre deux extrêmes. D'un côté, c'est la sauvagerie simple, état social d'anarchie naturelle, où le mal exerce son hégémonie de la manière la plus brutale. De l'autre côté, c'est la légion des convertis, sous le régime de l'anarchie morale, où le bien entend exercer son hégémonie sur toute la ligne. Si bien qu'en dernier ressort, les fidèles qui se constituent en Église ne font que s'évader de la société naturelle la plus rudimentaire. Il reste que l'Église doit se faire admettre par des États proprement dits, civilisés. Or, ceux-là seuls qui peuvent y consentir et lui convenir sont du type que les principes de la Révolution française de 1789 ont défini. Des États représentatifs, constitutionnels, où le peuple est déclaré souverain et où la volonté générale établit la contrainte légale. Néanmoins, en ce qui la concerne, l'Église n'est nullement concernée par le critère de la volonté générale, aussi bien pour sa composition que pour son fonctionnement. Alors, Dieu et l'Église. Toute association a besoin de loi. Qui en donnera aux convertis associés ? Ce ne peut être que la volonté suprême, c'est-à-dire Dieu. Comment la volonté divine peut-elle régir la conduite des fidèles de l'Église ? Tous les devoirs que s'imposent les convertis, il se les donne comme étant des commandements de Dieu lui-même. Chacun des fidèles procède à la mise en œuvre des maximes qu'il a adoptées, sachant que Dieu en est le témoin intime. Enfin, chacun est persuadé que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ainsi que Dieu s'affirme comme le souverain moral du monde, et que se constitue chez les mortels un authentique peuple de Dieu. Voilà donc l'Église parfaite fondée. Mais notons bien la dualité interne qu'elle comporte en l'état présent. D'une part, le corps des convertis se donne l'idéal du cœur des agréés de l'autre monde. C'est l'Église invisible. D'autre part, la communauté des fidèles de ce monde veille à se développer à l'image de cet idéal. Telle est l'Église visible. Les signes qui forment système, qui attestent que l'Église visible est vraiment l'Église parfaite, sont les suivants. Elle est une, c'est-à-dire catholique, au sens étymologique, en tant que totalement subordonnée à l'Église invisible. Elle est sainte, c'est-à-dire orthodoxe, en tant que son dogme ne relève que de motifs moraux. Elle est libre en tant que son recrutement et son attitude vis-à-vis de l'environnement soumis au droit public prouvent que son royaume n'est pas de ce monde. Elle est immuable en tant que ses statuts fondamentaux ne dérivent que de la seule loi du devoir, à laquelle chacun de ses membres se soumet. Quelle métamorphose l'Église parfaite va provoquer dans la vie religieuse? C'en est fait de la vieille division confessionnelle. Adieu tout à la fois à la superstition et au fanatisme. Terminez l'oppression que subissait la religion de la part du sabre, du goupillon et du veau d'or. Moi. Oubliez l'ancienne Église gouvernementalisée, avec ses saints canons constamment à remanier. Dogme. Introduction. Le dogme de toute Église visible comprend deux volets. D'une part, il y a une croyance d'Église, au sens étroit de l'expression, qui fait état d'une tradition née dans le temps de ce monde, dont des obligations contraignantes s'ensuivent. D'autre part, il y a une croyance religieuse, proprement dite, purement morale, et qui ne découle donc que de la partie pure de la faculté de la raison correspondante. Croyance d'Église. Un livre consacré par le respect public lui est nécessaire. Ce dépositaire de la doctrine est appelé Saintes Écritures. L'Église parfaite admet cet ouvrage à deux conditions. Dans ce livre, on ne doit retenir pour inspirer que ce qui ne s'oppose pas à la foi morale. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La liberté des vrais croyants est entière vis-à-vis des Écritures. L'Esprit souffle où il veut. Jean, chapitre 3, verset 8. L'interprétation morale des Écritures pourra paraître tirée par les cheveux parfois. Peu importe. Il faut systématiquement s'y résoudre. Certains crieront à la partialité dans les cas d'un écart trop manifeste avec le sens littéral. La question n'est pas là. Mais elle est d'admettre ou non si la faculté morale de la raison est autorisée à se faire juge en la matière. Le livre d'Église, une fois passé au crible de la loi morale, doit être livré, sans réserve aucune, à la critique scientifique, c'est-à-dire à l'examen incessant que peut en faire l'entendement des spécialistes. Ceci éclairera les fidèles sur les circonstances historiques de cet écrit, sa langue et les interprétations successives dont il fit l'objet. D'aucuns prétendent juger des Écritures en se passant du critère de la moralité et des moyens de l'érudition, et seulement en se laissant aller à leur intuition affective. Cette opinion doit être résolument écartée, parce qu'elle rend impossible tout enseignement religieux. Certes, celui qui se pénètre ardemment des Écritures et agit en conséquence, les déclarera divines. Mais ceci n'est alors que l'effet inconscient de la loi morale qui imprègne sa personne. En tout état de cause, le livre d'Église est la seule et unique règle extérieure que doit retenir l'Église visible. Son interprétation morale est infaillible. Elle vaut pour tous et en tout temps, tandis que la critique scientifique ne peut que fluctuer selon les peuples et les époques. Croyance religieuse. L'Église visible ne peut pas se passer d'une croyance d'Église. Et l'Évangile fait l'affaire. Mais dans l'Église visible parfaite, son rôle ne peut être que celui d'un moyen utile, servant de propédeutique, c'est-à-dire de préparation à la croyance religieuse, de sorte que l'usage de l'Évangile doit tendre à son propre dépérissement, travailler à se rendre inutile, sachant que toute religion institutionnelle, à forme juridique, a un côté nécessairement servile et mercenaire. L'Église parfaite se trouve donc engagée dans le processus suivant. La croyance d'Église, placée sous l'hégémonie déclarée de la croyance religieuse, s'ennoblit progressivement, et les nouveaux pasteurs qui dirigent cette évolution accélèrent l'arrivée du règne de Dieu, au lieu de le retarder, comme c'était le cas auparavant. Le règne de Dieu n'est bien sûr pas pour demain. Et pourtant, on peut dire qu'il est déjà venu dès à présent, puisque nous semons maintenant la première graine de la religion parfaite, assurée que nous sommes qu'elle éclairera toute la terre. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, le devoir du bien opère petit à petit en notre monde, et par l'effet de la vertu des hommes, il y apportera une paix perpétuelle. Évolution de la foi. Introduction. Comment évolua la foi avant l'avènement de la véritable Église? Il ne peut être question de l'histoire d'une Église visible que depuis le temps où il est connu que fut proclamé le principe suivant. La croyance religieuse doit primer sur la croyance d'Église. Cela nous fera commencer par saint Paul, comme nous allons le voir. Dès à présent, nous pouvons prévoir que toute l'histoire de l'Église visible jusqu'à nos jours nous montrera la lutte acharnée entre deux camps diamétralement opposés, l'un tenant que le culte détermine la morale, et l'autre que la morale détermine le culte. L'homme est toujours disposé à faire prévaloir la première position. Mais la seconde position tint ferme, et c'est elle qui devait finalement prévaloir. Tel est le seul fil conducteur qui permet d'y voir clair dans l'histoire de l'Église visible. Les Juifs. Disons-le tout net. L'histoire de l'Église visible n'a pas pu commencer avec les Juifs. La synagogue eut bien quelque chose à voir avec la parution de la première église visible. Mais ce n'en fut que l'occasion matérielle. Ni sa nature, ni sa fonction n'en faisaient une église. En voici les preuves. D'abord, tous les préceptes juifs étaient contraignants et ne visaient que les actes extérieurs. Même les 10 paroles étaient tournées en ce sens, alors qu'elles avaient une valeur morale dans la bouche de Moïse, et que les hommes le savaient par leur faculté morale avant lui. Ensuite, quant aux conséquences de l'observation ou de la transgression des commandements, les récompenses ou punitions, on ne les concevait que dans la vie présente, et en les distribuant sans aucun critère moral. De plus, les bons points et les mauvais points se communiquaient à la descendance, qui n'y est pour rien, ce qui est tout à fait immoral. Ensuite, dans la confession de foi du judaïsme, l'idée de l'immortalité de l'âme est complètement absente, et, ce qui est plus grave encore, l'idée vraie de Dieu est totalement fallacieuse. Que dit leur invocation qu'ils revendiquent comme fondamentale? Le schéma, autrement dit, écoute. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, notre Dieu. Dieu est un. Notre Dieu? Bien d'autres peuples ont dit notre Dieu, en parlant d'un Dieu suprême qui en dominait d'autres plus petits. Dieu est un? Ce n'est pas l'unité de Dieu qui importe, mais de le connaître comme souverain moral de la création. Ensuite, et c'est le comble, les Juifs disent que Dieu ne s'intéresse qu'à eux et qu'il regarde tout le reste du genre humain comme ses ennemis. Que veut donc dire le mot « religion » pour ce prétendu peuple élu? Pour conclure, signalons que tout ce qui précède est conforme au fait que les Juifs vivaient en théocratie. En effet, l'aristocratie de leurs prêtres et nobles se vantait de recevoir des ordres directs de Dieu. Certes, ils invoquaient son nom. Hachem, le nom. Mais en ne mettant derrière ce nom qu'une sorte de chef d'État qui se moque de la conscience de ses sujets. Les chrétiens. Josué. C'est bien avec Josué qu'il faut commencer l'histoire d'une église visible. Puisque l'évangile y expose son message comme directement contraire à la conception juive. On dit que Josué vécut de moins 6 à plus 30. Ricciotti, 1954. Que dit Josué? À bas la croyance servile se réduisant à des actes extérieurs, des cérémonies, des sacrifices et des formules récitées. C'est la foi qui sauve, émanant de la moralité et traduite dans une conduite qui ne vaut que par l'intention qui la motive. On voit bien que Josué prêchait l'hégémonie nécessaire de la croyance religieuse sur la croyance d'Église. En vérité, la doctrine de l'Évangile n'a pas besoin de la manifestation d'un Josué dans le temps de ce monde. Mais admettons cette hypothèse. Alors il est logique qu'on doive envelopper un tel événement de miracles et de mystères. Seulement, la réalité de ces choses relève entièrement de la critique scientifique. Par suite, les savants exigent pour commencer le témoignage d'écrivains contemporains de Josué et des apôtres concernant ces événements, et non suspects d'appartenance au parti des apologistes. Ensuite, ils doivent découvrir un accord constant de la critique au cours des siècles sur la question en cause. Le christianisme primitif, des apôtres à Constantin, 312 après Christ, persécuté. À l'époque où les chrétiens font démarrer leur religion, les Romains régnaient partout sur les Juifs, y compris en Palestine. Ils se souciaient peu des croyances des peuples qu'ils dominaient, mais avaient de savants historiens qui consignaient tout ce qui se passait dans l'Empire. Or, que nous apprennent-ils? Eux, qui étaient friands de prodiges, restent muets sur Josué, les apôtres et tout ce que raconte l'Évangile. C'est seulement à propos de l'incendie de Rome, en 64 après Christ, 35 ans après la mort supposée de Josué, que le mot même de chrétien est prononcé. Et bien plus tard, on trouve encore peu de choses. Tacite, 55 à 120, dans ses annales, signale en passant l'exécrable superstition de ceux que le bas peuple appelait chrétiens. Suétone, 69-125, son contemporain, parle dans ses 12 Césars des supplices infligés aux chrétiens. Cette espèce de gens imbus d'une superstition récente et malfaisante. Certes, mais plus tard encore, le christianisme pénétra dans toutes les classes sociales. Ainsi, vers 200, Tertullien dit aux Romains « Nous ne sommes que d'hier et déjà nous remplissons le monde, ne vous laissant que vos temples. Mais, et c'est ce qui compte, les adeptes du christianisme étaient-ils moralement meilleurs que les fidèles de Zeus ? Nous l'ignorons faute de documents. En tout cas, nous savons très bien que ceux qui se prévalurent du christianisme par la suite ne nous le rendent pas du tout recommandable au titre de la moralité. Le christianisme dominant, depuis Constantin, impérial puis papal. Notez que Kant esquive la réforme et ses suites dans les temps modernes. Note. Avec la victoire, la première chose que le christianisme met au monde, avec le célibat déclaré saint, c'est le pullulement d'ermites et de moines, anachorètes et cénobites, exaltés et complètement inutiles à la société. Et l'on a avec cela des miracles à tour de bras qui abrutissent le peuple de superstition. Par ailleurs, la hiérarchie cléricale, empreinte du dogmatisme le plus grossier, divise les fidèles en parties acharnées à propos de symboles de foi, credo, qu'on annule d'ailleurs à la première occasion pour les remplacer par d'autres qui ne tarderont pas à avoir le même sort. D'abord donc, en 312, on eut les Grecs, Constantin et ses successeurs. Résultat ? Les conflits portant sur le droit canon et les querelles de moines firent de l'Empire la proie des barbares. Ensuite, en 740, on eut les Latins. Charlemagne, seul roi en 771, et ses successeurs. Résultat ? Le prétendu vicaire du Christ, le pape, détruit l'ordre politique et la culture. Il châtie les rois comme des enfants, excite aux croisades, dresse les masses contre leurs dirigeants et monte les divers courants chrétiens les uns contre les autres. Ah, prise en bloc, l'horrible histoire du christianisme du passé pourrait justifier l'exclamation de l'athée Lucrèce. Tellement la religion peut enfanter de crimes. Note. Lucrèce, 99 à 55 avant Christ, dans son poème « La nature des choses », chapitre 1, verset 80, écrit vers l'an 56 avant Christ. Il finit par se suicider. Fin de la note. Oui, on pourrait le dire. Mais seulement si on oubliait qu'à sa naissance, le christianisme formulait le principe que la foi religieuse doit commander à la foi d'Église. Enfin, Kant. Finalement, quelle est la meilleure époque de l'histoire de l'Église ? Incontestablement, c'est la nôtre. Parce que la domination de la croyance d'Église est totalement discréditée. Et parce qu'un germe de la croyance religieuse est maintenant déposé, tout à fait officiellement, quant à sa fonction. Dès lors, il ne suffit plus que ce germe se développe librement pour que l'Église parfaite, tant attendue, se constitue, expression visible d'un règne invisible de Dieu en ce monde. Jamais jusqu'à présent, on avait tranché radicalement entre la croyance religieuse et celle d'Église. Il le fallait de nos jours, en ce temps où la raison trouve définitivement insupportable l'ancienne théologie subordonnée à des considérations tirées du temps de ce monde. Dans toute l'Europe occidentale, les vrais croyants sont devenus circonspects, assez prudents dans leur appréciation de la révélation mise sur le compte de Josué. Ainsi, on admet de bon gré que le fond moral de l'Évangile peut être déclaré nécessairement divin, tandis que la forme historique, qui en fait état, peut être dite possible surnaturellement, vu que personne n'a pu démontrer le contraire. Puisque l'Église visible ne peut se passer d'un livre saint, et que l'Évangile convient pour cet objet, nous devons protéger l'ouvrage de toute attaque stérile et mal intentionnée, sans que pour autant personne ne soit contraint de croire que la foi en cet écrit soit une chose nécessaire au salut. La critique scientifique de la croyance d'Église est parvenue au point où l'on peut affirmer ceci. Elle n'a pas de fondement historique et on n'en a pas besoin. L'orthodoxie exige la seule persuasion pour faire des convertis. Et la bonne conduite de ceux-ci a une valeur absolue. De sorte que la foi sans les œuvres ne vaut rien. Comme dit si bien Jean-Baptiste, Yahya, confère Sourate 6, verset 85, etc. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu, chapitre 3, verset 10.